Au sommaire de cette édition, eh bien, fin des audiences publiques à la Cour de justice de Paris. Christine Lagarde connaîtra son sort lundi prochain. Et selon Malcolm Turnbull, les sondages ne sont pas un indice de la bonne gestion du gouvernement. Et le président Barack Obama dit que les services américains détiennent des preuves selon lesquelles Vladimir Poutine en personne serait impliqué dans l'élection de Donald Trump. Fin des audiences dans le procès Lagarde Tapie à la Cour de justice de la République à Paris. La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, connaîtra ce lundi son sort. Elle saura si elle sera déclarée coupable ou non. À l'issue de l'audience, la patronne du FMI aurait d'ailleurs laissé éclater un sanglot. Explication France Alexandre pour RFI.
Elle parle avec des trémolos dans la voix et ravale même un sanglot. Christine Lagarde évoque ses 5 jours d'audience qui mettent fin à 5 années d'épreuves pour son compagnon, ses fils, ses frères qui sont là dans la salle. Puis l'ancienne ministre des Finances retrouve un ton plus assuré. Dans ce dossier, comme dans tous les dossiers, dit-elle, j'ai agi en confiance et en conscience, avec pour seul objectif la défense de l'intérêt général. Christine Lagarde conteste à nouveau toutes les accusations et le martèle. J'ai décidé et j'assume mes décisions. Ce choix d'entrer en arbitrage, puis de ne pas tenter un recours en annulation, a été pris, insiste-t-elle, en mesurant les avantages et les inconvénients. Et elle ajoute, le risque de fraude m'a totalement échappé. Lundi, elle sera fixée sur son sort, mais après une semaine difficile où elle fut souvent bousculée par les témoins, Christine Lagarde a néanmoins des raisons d'être optimiste. Le parquet général a été très clair, elle n'a commis aucune faute pénale. Pour l'accusation, la relaxe s'impose.
Et un homme est mort après s'être défenestré lors d'un incendie dans un foyer de travailleurs immigrés à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Cet incident s'est produit dans la nuit du jeudi au vendredi. Mais les autorités judiciaires privilégient la thèse d'un acte criminel. Compte rendu de cet incendie avec Simon Roset pour RFI.
Les agents de la police scientifique font leur relevé à l'intérieur. Un cordon de sécurité interdit l'entrée du foyer de migrants travailleurs. Ils sont une 50aine à patienter devant, à se refaire le film de la nuit.
Il y a quelqu'un qui nous a réveillé, il y a le feu. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement.
Il est environ 3h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Sibi est réveillé par des cris. L'immeuble de 6 étages est évacué dans le désordre.
Donc on est tous venus par là, on a trouvé quelqu'un par terre. Mais ils ont dit il y a le feu, donc on est passé par là, donc on ne peut pas passer. Pour aider les gens pour descendre, on ne peut pas.
Un corps par terre, c'est celui de la personne qui a sauté du 6e étage pour échapper aux flammes. Elle est décédée. 2 autres sont grièvement blessés. Un drame qui aurait pu être évité selon Ibrahima Diallo. Cela faisait 5 ans qu'il vivait dans le foyer.
Il y avait tellement de fumée, il n'y avait pas de visibilité. Et c'est moi qui ai tapé les portes pour faire ouvrir les gens qui sortent. Certaines personnes, en tout cas de mon étage, premier étage, j'ai fait de mon mieux pour réveiller les gens pour qu'ils sortent. Il n'y a pas eu de larmes. Ce problème a duré, ça fait maintenant plus de 6 mois. On a sollicité le maire et le préfet. Il dit qu'il va faire le nécessaire. Ça n'a jamais été fait.
Les centaines de personnes qui vivaient dans ce foyer ne savent pas encore où elles dormiront cette nuit. Une enquête judiciaire a été ouverte. Elle se dirige vers une piste criminelle.
On reste toujours en France avec l'ouverture hier par Juliette Méadel d'un 4e comité local d'aide aux victimes de terrorisme. Ce comité a été ouvert dans la région de Rennes. Cette antenne centralisera pour le département l'ensemble des services de l'État et des associations d'aide aux victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Explication Sylvie Coffi pour RFI.
Paris est la 4e ville où est installé ce comité local de suivi des victimes des attentats. Juliette Maïdel, secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes.
Faciliter la vie, éviter qu'il y ait des démarches administratives trop lourdes qui ajoutent de la douleur à la douleur et faire en sorte que les victimes ne soient plus jamais seules. Donc ces comités locaux sont très importants. Aujourd'hui, c'est un moment clé car nous avons aussi diffusé cette nouvelle culture de l'aide aux victimes et l'objectif c'est de leur permettre de se reconstruire le mieux possible.
Pour Stéphane Jiquel, président de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, ce parcours vers la reconnaissance et la reconstruction est long et difficile.
La première mission je crois c'est de rassurer les victimes parce que souvent les victimes de terrorisme ont un sentiment ou une crainte d'abandon et d'oubli. Et donc ce comité, ça va être là pour dire aux victimes, vous aurez un interlocuteur et vous aurez des gens mobilisés pour vous accompagner dans la durée, la très longue durée.
La prochaine réunion de travail de ce comité de suivi des victimes de Paris aura lieu en mars prochain.
Et ce reportage nous avait terminé par Sylvie Coffey pour RFI. Et en Australie cette fois-ci, le Premier ministre Malcolm Turnbull a rejeté hier l'idée selon laquelle des sondages d'opinion constitueraient un indice de la performance du gouvernement. Selon lui, il faudrait plutôt approcher les sondages avec un certain cynisme, surtout si on voit ce qui s'est passé à travers le monde ces dernières semaines. On se souvient que Malcolm Turnbull avait invoqué les mauvais sondages pour justifier le renversement de son prédécesseur, Tony Abbott, à la tête du Parti libéral australien. Et des centaines de personnes vont sillonner la pelouse du Parlement australien à Canberra ce samedi. Bien, ces personnes ont répondu à une campagne lancée sur Facebook par Lester Yao, un résident de Canberra. Et cette campagne a récolté en quelques heures seulement des centaines d'adhérents. Lester Yao dit avoir convié cette manifestation avant la construction prochaine d'une grille de sécurité haute de 2,6 m. Qui limitera l'accès au périmètre du Parlement. Bien, Lester Yao a déclaré à nos confrères de la ABC que cette manifestation donc de ce samedi démontre l'importance du Parlement pour la population.
The message I suppose that the lawn represents is us being able to walk up there as free people. But to put an obstacle such as a fence or even a moat that people have suggests that you can't go up there, that this is not for you.
Et après l'évacuation des 9000 personnes des quartiers assiégés, la situation semble revenue à la case départ à Alep. L'opération d'évacuation des rebelles et de leurs familles de l'est de la ville s'est terminée hier selon la Russie. Mais de son côté, un porte-parole de l'armée syrienne affirme que l'opération d'évacuation a seulement été suspendue. Les deux alliés ne semblent donc pas sur la même longueur d'onde. Et une très grande confusion règne autour des raisons qui ont conduit donc à cette suspension. Pendant ce temps-là, la France a présenté au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution humanitaire. Ce texte, qui n'est pas encore complètement finalisé, prévoit le déploiement d'observateurs internationaux pour assurer l'évacuation en toute sécurité de quelques 40 000 civils qui, selon l'ONU, sont toujours assiégés dans le réduit rebelle d'Alep. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a réitéré sa frustration face à l'incapacité de la communauté internationale de mettre fin au carnage en Syrie.
The carnage in Syria remains a gaping hole in the global conscience. Aleppo is now a synonym for hell. As I told the Security Council 3 days ago, we have collectively failed the people of Syria. Peace will only prevail when it is accompanied by compassion, justice, and accountability for the abominable crimes we have seen.
Et les États-Unis accusent la Russie d'avoir supervisé des piratages informatiques pour influencer l'élection présidentielle américaine. Et certains dirigeants du renseignement américain pensent que Vladimir Poutine s'est personnellement investi dans cette campagne de cyberattaque. Lors de sa conférence de presse de fin d'année, le président Barack Obama a d'ailleurs déclaré que ses services détiennent des indices impliquant directement Vladimir Poutine.
I think what I want to make sure of is that I give the intelligence community the chance to gather all the information, but I'd make a larger point, which is not much happens in Russia without Vladimir Putin. I mean, this is a pretty hierarchical operation. Last I checked, there's not a lot of debate and democratic deliberation, particularly when it comes to policies directed at the United States.
Alors que les grands électeurs vont rendre leur verdict sur l'élection de Donald Trump dans les prochains jours, Hillary Clinton, qui a perdu ses élections, a accusé elle aussi Moscou et Vladimir Poutine en personne d'être partiellement responsables de sa défaite. Ces déclarations donc de Hillary Clinton sont tombées lors d'un dîner avec des donateurs de sa campagne. Et on revient dans une région plus proche de chez nous, plus précisément aux Philippines. Bien, le président philippin Rodrigo Duterte aurait dirigé des escadron de la mort responsable de 1000 assassinats, dont des enfants. Mais, fidèle à sa réputation de provocateur, Rodrigo Duterte a insulté copieusement ses détracteurs et même menacé des journalistes. Dans une interview accordée à nos confrères de la BBC, Rodrigo Duterte persiste et signe, il entend poursuivre son combat contre la drogue et ce, à sa manière.
Given the problems of my country, yes, I have 4 million drug addicts in my country. So that is not a joke for as long as there are drug pushers in the streets in my country. For as long as there are drug lords, this campaign will go on until the last day of my term. And until all of them are killed.
Et malgré les nombreuses condamnations et protestations internationales, l'homme fort de Manille jouit d'une grande popularité et du soutien de 77% des Philippins selon un récent sondage. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé hier à l'unanimité de reconduire le mandat de la mission de l'UN au Soudan du Sud. Le contingent onusien au Sud-Soudan, qui est fort de 13 000 hommes, a pour mission de prévenir les affrontements et de protéger les civils. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne à l'ONU dit que la tâche du contingent de l'ONU, aussi connu sous le nom de UNMISS, est loin d'être achevée.
So the work of UNMISS matters. And it is painfully clear that it has much, much more to do. We've been waiting far too long to see meaningful action from leaders in Juba. We've heard the government's statements. It says it is pursuing peace. It says it is agreeing to the deployment of the Regional Protection Force. And it claims it will allow UNMISS to fulfill its mandates. We must now see this in their actions and not just words.
Et à présent, un coup d'œil météo pour ce samedi à travers les grandes villes australiennes. Perth, 33 degrés. Adélaïde, 22 degrés. Melbourne, 21 degrés. Hobart, 19 degrés. Canberra, 22 degrés. Wollongong, 28 degrés. Sydney, 32 degrés. Et Newcastle, 27 degrés. Brisbane, 32 degrés. Cairns, 33 degrés. Et Darwin, un maximum de 32 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 70 centimes d'euros et 73 centimes de dollars US. Ceci clôture cette édition. À présent, un rappel des titres. Fin des audiences publiques à la Cour des justices de la République de Paris, Christine Lagarde connaîtra son sort dès lundi prochain. Et selon Malcolm Turnbull, les sondages ne sont pas un indice de la bonne gestion de la part du gouvernement. Et lors d'une conférence de presse, le président Barack Obama a déclaré que ses services détiennent des preuves selon lesquelles Vladimir Poutine serait personnellement impliqué dans l'élection de Donald Trump.